nzamba
nzambira samirana
Merci d'écouter Radio Inzamba Agathe Kakawe au sommaire de l'actualité de ce 15 juin 2021. Une grenade lancée dans une habitation a fait 2 blessés, cela s'est produit hier dans la ville de Gitega. Toujours pas de trace de Charles Hamenimana, selon des proches de ce militaire en retraite porté disparu depuis le 15 mai dernier en province Makamba. Il a été enlevé, selon sa famille, qui dit craindre pour sa vie. La pénurie du sucre, un casse-tête pour les consommateurs de la province Muyinga. Ils sont en colère contre les commerçants qu'ils accusent de spéculer sur la vente de ce produit. Bienvenue dans ce journal, Joséphine Jotsumundimana à la présentation.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Merci d'être à l'écoute de la radio Inzamba Agathe Kaka. L'explosion d'une grenade a fait 2 blessés la nuit dernière. Cela s'est passé dans un ménage se trouvant dans le quartier Carrera de la ville de Gitega. Une personne a été interpellée pour raison d'enquête selon des sources sur place. Les précisions avec Jacob Sibomane.
La grenade a explosé au domicile de la famille de Dieu de Neni Tugabira, quartier Carrera 1 de la zone urbaine de Gitega, en commune et province Gitega. Des sources au sein de la famille disent que des malfaiteurs sont passés au-dessus de la clôture et ont ensuite défoncé une fenêtre à travers laquelle la grenade a été lancée. Un enfant de la famille et une domestique, respectivement âgés de 10 et 15 ans, dormaient dans la chambre. Prince Yawimana et Mireille Ndouimana ont été grièvement blessés et ont été évacués à l'hôpital régional de Gitega pour des soins intensifs. Des sources dans la famille indiquent que l'attaque serait liée à un conflit familial. Le conflit serait né du fait que la première épouse du chef de ménage aurait refusé qu'il prenne une seconde femme. Dieudonné Nitugabira avait déjà prévenu sa première femme qui la tuerait selon les mêmes sources. Le matin de ce mardi, une femme accusée d'être une maîtresse du chef de la famille a été arrêtée et conduite au cachot du commissariat de la police en commune Gitega où elle est incarcérée. L'attaque à la grenade a eu lieu vers 2h du matin alors que Dieudonné Nitugabira n'était pas à la maison.
Quittons le centre pour le sud du pays. Charles Hamenimana reste introuvable 1 mois après son enlèvement. Cet ancien militaire en retraite travaillait aussi comme catéchiste de l'église anglicane à la succursale Mutarama de la province anglicane de Mabanda. Sa famille voudrait qu'une enquête soit menée pour le retrouver. Les détails avec Delicia Kamikaze.
Selon une source émanant à la paroisse anglicane Mabanda, l'ex-fab Charles Hamenimana a été vu pour la dernière fois samedi 15 mai lorsqu'il était au garage situé tout près de la paroisse catholique de Mabanda. Les proches de sa famille affirment que la famille l'a cherché dans tous les cachots sans succès. Les mêmes sources indiquent que son téléphone reste injoignable depuis la même date à 15h. La famille et les proches ont demandé à la police de mener des enquêtes, mais aucune information sur l'état d'avancement sur ce dossier et demandent aux institutions publiques de faire tout pour trouver le leur. Selon les informations parvenues à la radio Inzamba, Charles Hamenimana a été enlevé par des militaires qui étaient à bord d'une camionnette appartenant au colonel Moussa Bakarix, chargé de renseignement dans la force de défense nationale du Burundi FDNB, portant numéro FDNB 485 EMG. Selon les sources, au sein de l'armée burundaise, cet ex-fab aurait été conduit à la brigade de Rumonge avant d'être transféré dans les cachots du service national de renseignement à mairie de Bujumbura. On n'a pas encore réussi à joindre le porte-parole de la police, Pierre Mourikiye, pour donner des éclaircissements sur l'enlèvement de cet ex-fab.
Dans l'actualité judiciaire, le parquet de Gitega a requis vendredi dernier 8 ans de prison ferme contre une personne vivant avec une déficience mentale. Emmanuel Nakiruta, qui vient de passer 3 mois en détention préventive, est poursuivi pour outrage aux institutions de la République et atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Un réquisitoire qui n'est pas conforme à la loi selon les professionnels du droit. Ces derniers plaident pour sa libération inconditionnelle afin qu'il puisse aller se faire soigner. Reportage signé Valérie Mouch.
Emmanuel Nakiruta, âgé de plus de 50 ans, est un cadre au ministère de l'Agriculture. Il a comparu vendredi dernier au tribunal de grande instance de Gitega en audience publique. Il est poursuivi pour outrage aux institutions de la République et atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Après l'audience, le ministère public a requis contre lui une peine de 8 ans d'emprisonnement. Il est en détention depuis le début du mois de mars de cette année. Emmanuel Nakiruta est atteint de troubles mentaux, comme l'attestent les documents médicaux. Selon l'avocat Gustave Nyonzima, ce réquisitoire du ministère public relève de la malveillance.
C'est un réquisitoire qui relève de la malveillance et qui ternit même l'image de la justice. C'est vraiment un réquisitoire biscorni et reflétant un imbroglio judiciaire. Et le déficient mental est irresponsable pénalement, tout simplement victime de ses propos élogiés tenus à l'égard des putschistes du 13 mai 2015, lorsqu'il disait qu'il fallait qu'ils soient libérés à cause de leur héroïsme. Sinon, le dossier est vide de sens.
Maître Gustave Nyonzima indique également que la loi a été violée depuis l'arrestation de Emmanuel Nakiruta et sa détention à la prison de Gitega.
L'article 25 du Code pénal exige qu'il ne peut être punissable s'il souffre d'une déficience mentale qui le prive de comprendre son caractère délictueux. Juridiquement étant, le ministère public devait se référer aux articles 110 alinéa 2 et 154 du Code de procédure pénale qui exigent successivement que le ministère public instruise même à décharge s'il constate qu'il y a une déficience mentale à l'endroit de se prévenir, ou aussi en mettant en avant la liberté comme la règle et la détention comme l'exception. Espérons que le tribunal pourra faire la preuve du contraire en le libérant pour qu'il puisse bénéficier des soins de santé.
Sur demande des responsables pénitentiaires, le détenu qui n'avait pas eu droit à son traitement depuis son arrestation en mars a été autorisé à aller se faire soigner le mois dernier. L'affaire a été mise en délibéré. Le tribunal de grande instance de Gitega a 30 jours pour prononcer son verdict.
Le gouvernement du Burundi se dit satisfait de la situation des enfants au Burundi depuis l'adoption de la Charte africaine sur la protection des enfants. Dans un communiqué sorti ce mardi à la veille de la journée de l'enfant africain, Célestin Sindubutume, inspecteur général au ministère du droit de la personne humaine, fait savoir que ce ministère a choisi de célébrer cette journée au site Sobel, où il y a des enfants victimes des inondations de Gatumba. On l'écoute.
Le gouvernement du Burundi connaît un progrès satisfaisant en ce qui concerne la protection des enfants, tant sur le plan légal, politique qu'institutionnel, depuis l'adoption de la Charte africaine. Il y a lieu de citer l'adoption de la politique nationale de la protection de l'enfant, la mise sur pied de la police des mineurs, les initiatives communautaires de prise en charge des enfants vulnérables, la réinsertion des enfants en situation de rue et de mendiant, la création de 3 centres de rééducation des mineurs en conflit avec la loi pour une justice adaptée aux enfants, la mise en place du Forum national des enfants du Burundi, sans oublier la continuité de la gratuité de la scolarité de l'école fondamentale et des soins de santé des enfants d'au moins de 5 ans. Dans notre pays, la célébration de la journée aura lieu à Maranvia, en commune de Mutimbuzi, en province de Bujumbura, au site Sobel, qui héberge un bon nombre d'enfants victimes des inondations survenues récemment. Nous profitons de cette opportunité pour inviter tous les Burundis à commémorer cet événement en famille, accompagner des enfants et de ne pas oublier les enfants de parents vulnérables de leur voisinage.
Inzamba. L'interdiction d'exportation de l'huile de palme par le ministre de l'Intérieur depuis le 2 juin dernier n'est pas une solution à la pénurie de ce produit devenu une denrée rare dans le pays. C'est l'avis de certains palmiculteurs de la province Lomongue au sud du pays. Ils expliquent que le marché de palme à l'huile est exploité au profit de la société Savonor, une entreprise de transformation d'huile de palme au Burundi. On fait le point avec Benny Axela Kana.
L'huile de palme est une denrée rare dans les marchés locaux et son prix n'a pas manqué de grimper dans le pays. Les commerçants de Lomongue s'indignent de la rareté de ce produit ces derniers jours. Ils ont été contraints de majorer les prix, passant de 14 000 à 20 000 pour un bidon de 5 litres et de 80 000 à 100 000 francs burundais pour celui de 20 litres en cette période d'été. Les conséquences directes pèsent contre les consommateurs et les petits commerçants de ce produit. Ils indiquent que l'approvisionnement n'est pas du tout aisé depuis que les palmiculteurs aient tourné vers la société Savonor qui est le mieux payant et qui transforme l'huile de palme selon les commerçants de Lumonge. Et pour réguler cette situation, le gouvernement lui a interdit l'exportation de l'huile de palme, une raison à l'origine de cette pénurie selon le ministère de l'Intérieur. Pour beaucoup de commerçants, cette mesure du ministre Gervais de la Kovucha est loin d'être une réponse à la montée des prix de l'huile de palme au Burundi.
Cap sur la province Muyinga pour parler de cette grogne des consommateurs de sucre à l'origine de cette colère. Cette denrée est devenue rare et chère depuis le mois d'avril dernier. Un kilo de sucre s'achète à 7000 francs burundais dans les boutiques du marché central ou dans les quartiers périphériques alors que le prix officiel est fixé à 2500 francs bou selon des sources concordantes. Le point avec Trifine Kaniwabu.
Il y a plus de deux mois, en province de Muyinga, comme partout ailleurs dans le pays, que les consommateurs déplorent la pénurie et la cherté du sucre. En province de Muyinga, les commerçants n'hésitent pas à vendre le kilo à 7000 francs. Les consommateurs accusent ouvertement les commerçants grossistes qui approvisionnent la province de Muyinga à partir du dépôt de l'assessiment en Ngozi, devenus aujourd'hui des détaillants contre toute attente des consommateurs d'être la source de leur calvaire. Les commerçants grossistes vendent quelques sacs aux consommateurs alors que chacun reçoit au moins 2 tonnes et garde le reste dans leur stock pour l'offrir aux petits commerçants à un prix désonéreux et qui vendent à leur tour le kilo de sucre à 7000 francs. L'Élysée demande avec insistance à l'administration et à la police de prendre des sanctions à l'endroit de ces commerçants spéculateurs pour protéger les droits des consommateurs. L'administration provinciale de Muyinga justifie cette pénurie du sucre par la diminution par l'assessement de la quantité du sucre qui était réservée à la province de Muyinga. Le quota préalablement prévu étant passé de 50 à 15 tonnes de ces derniers mois. Le gouverneur de la province de Muyinga, Jean-Claude Barutwanayo, confirme que la quantité du sucre a baissé, mais demande au prix de 7000 francs bou le kilo. Selon lui, l'administration fait tout pour que la quantité disponible soit partagée équitablement, sans aucune spéculation sur le prix.
Et puis cette réaction aux mesures prises hier par le Comité national contre la propagation du Covid-19, le gouvernement burundais devrait renforcer les mesures de protection contre le Covid-19 plutôt que d'autoriser la libre circulation transfrontalière. Ce sont les propos de l'expert épidémiologiste comme Konakudze sur la décision de suppression de la quarantaine obligatoire pour les personnes entrant au Burundi. Cet expert fait savoir que l'importance de la quarantaine est de casser la chaîne de transmission pour que le virus ne se répande pas dans toute la communauté, car 99% des cas sont malades dans les 10 jours qui suivent la contamination. Suivez l'expert épidémiologiste comme Konakudze.
Avec l'ouverture des frontières des pays voisins à l'exception du voisin du Nord, le Burundi va connaître beaucoup de voyages transfrontaliers et terrestres, et plus que ceux qui voyagent par les voies aéroportuaires. Et cela veut dire que plusieurs va-et-vient entre les pays voisins, que ce soit la Tanzanie, que ce soit la République démocratique du Congo, on va observer beaucoup de contacts transfrontaliers et qui peuvent être suspectes d'augmentation des cas suspects, surtout les cas des variants récents qui sont beaucoup plus contagieux et aussi morbides que les variants connus précédemment. On peut être contaminé sans le savoir, car au début de l'infection, il n'y a pas assez de charge virale pour que la maladie soit détectée. Donc, pour vous dire que les cas de contagion vont s'augmenter si des mesures de protection de la population ne sont pas prises correctement, ça veut dire plutôt que laisser libre la circulation pour d'autres fins qu'on n'a pas encore des raisons scientifiques de prouver que la contamination n'est pas favorisée par ces retraits de la mise en quarantaine par le gouvernement burundais.
Actualité sportive pour terminer. La première journée de l'Euro de football se termine aujourd'hui par le choc entre les deux géants du football européen. L'Allemagne accueille la France, des nations habituées à se croiser en fin de tournoi. En plus du Portugal, dans ce groupe, l'un de ces grands pays de football sortira au premier tour. Les détails avec Blaise Nijimbedi.
Pour le choc entre Français et Allemands à 21h, 14 500 spectateurs sont annoncés au stade Allianz Arena de Munich, dont 2000 supporters français. Dans le passé proche, l'équipe de France se porte mieux que les Allemands. Après avoir été éliminé au premier tour au Mondial de 2018, le coach allemand a modifié complètement son équipe en faisant confiance à la jeunesse. Cette politique n'a pas bien marché et pour cette Coupe d'Europe, devant l'inamovible Manuel Neuer, les joueurs comme Mats Hummel et Thomas Müller ont été appelés pour encadrer la jeunesse et seront sans surprise titulaires dans ce choc contre la France. Même si l'Allemagne joue sur son propre terrain, les spécialistes du football indiquent que la France a plus de chances que l'Allemagne pour cette rencontre. En effet, champion de la Coupe du Monde 2018, la France est également finaliste de l'Euro 2016, remporté par le Portugal qui se trouve également dans son groupe le plus élevé de cet Euro. La France, avec des joueurs d'expérience, s'est renforcé avec le retour de Karim Benzema, un atout de taille pour la formation française. Le match d'aujourd'hui est capital pour les deux équipes. Le perdant risque gros puisque ce groupe comporte également le Portugal de Cristiano Ronaldo, champion d'Europe en titre. Entre ces trois grands pays du football européen, l'un sera éliminé au premier tour. Même si les Français sont favoris de cette coupe, ils doivent tout de même se souvenir qu'en Coupe du Monde 2002, champion du monde 1998 et champion d'Europe 2015 été, l'équipe dirigée par Roger Lemaire a été éliminée au premier tour. En Copa América, la formation de Lionel Messi a été tenue en échec par le Chili malgré le but du génie argentin. L'Argentine peine à confirmer son statut de grand pays du football d'Amérique latine. Dans l'autre match, le Paraguay a battu la Bolivie par 3-1.
Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée. Au revoir.